Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'ActuVu. Vous connaissez la musique, si vous préparez les concours pour intégrer une école de journalisme, vous êtes au meilleur endroit possible. Place aux 6 soldats qui ont suivi pour vous l'actualité de la semaine. Parmi eux, Pierre retire sa casquette de grand chef pour nous parler d'écriture. Affaire Fillon et cette plainte déposée contre le numéro 3 du RN aux européennes. On va aller en Espagne, Argentine, mais aussi Israël avec Benjamin pour parler notamment de ce bataillon dans le viseur de Washington. Hugo va nous détailler la révision de la PAC. Et spoiler, l'environnement n'est toujours pas à l'ordre du jour. Et dans l'actualité médiatique, Clément nous expliquera ce fonds pour l'indépendance de la presse choisi par le groupe Le Monde. Pour conclure, on est en pleine période d'oral, donc quoi de mieux que quelques conseils pour le jour J, ce sera la mission de Tristan. Alors maintenant, installez-vous, mettez-vous à l'aise, sortez vos cahiers et vos surligneurs, on commence par le affluoté proposé par Paul.
Après Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, un couvre-feu pour les mineurs est entré en vigueur à Béziers, dans le département de l'Hérault. Le maire, Robert Ménard, a signé lundi dernier un arrêté interdisant tout mineur âgé de moins de 13 ans de circuler sur la voie publique de 23h à 6h du matin. D'autres villes comme Nice ou Perpignan songent elles aussi à l'appliquer. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit favorable à cette mesure. Plus de 2000 vols ont été annulés jeudi dernier dans l'Hexagone, et ce, malgré la levée de la grève des contrôleurs aériens. Les compagnies aériennes prévenues au dernier moment n'ont pas pu éviter des suppressions massives de vols. Résultat, les trois quarts des vols à Orly ont été supprimés, 65% à Marseille et 45% à Toulouse, Nice ou encore Lyon. Et pour rappel, les aiguilleurs du ciel exigeaient de nouvelles compensations financières.
Un nom à surligner cette semaine, celui de Sophie Adenau, qui devient la deuxième astronaute française.
Oui, après Claudie Aigneré, Sophie Adenau a reçu son brevet d'astronaute de l'ESA, l'agence spatiale européenne. Elle partage un point commun avec le plus célèbre astronaute français Thomas Pesquet, le fait d'être passé dans la plus belle ville de France, Toulouse, si vous ne l'aviez pas compris. En effet, Sophie Adenau est rentrée à l'Institut supérieur de l'aéronautique entre 2001 et 2003. Le ministère du Travail a révélé cette semaine les chiffres du chômage de ce premier trimestre 2024. Et ce que l'on peut constater, c'est que le nombre de chômeurs est en très légère baisse, à 0,1%, portant le nombre de personnes inscrites à un peu plus de 3 millions. Cependant, le chômage chez les jeunes continue d'augmenter, plus 5,3% en un an.
Et si vous êtes passé à côté, la star de la chanson Kenji Girac a été blessé par balle lundi dernier.
Oui, il explique avoir voulu simuler un suicide pour faire peur à sa femme, selon le procureur de la République de Mont-de-Marsan. Ce dernier a d'ailleurs écarté la thèse du tir accidentel hier lors d'une conférence de presse. Kenji Girac aurait consommé énormément d'alcool durant la soirée et indiquera plus tard avoir consommé de la cocaïne. Une enquête judiciaire va se poursuivre afin de savoir d'où provient l'arme utilisée lors de cette soirée. Et enfin, TikTok Lite suspendu dans l'Union européenne. Cette nouvelle fonction récompensant les utilisateurs pour le temps passé devant les écrans est accusée de susciter trop d'addictions. Cette financiarisation du temps d'écran représente un risque grave pour la santé mentale des utilisateurs, selon la Commission européenne.
Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique.
Moi ? Mais qui elle est celle-là ?
Quelle indignité.
Le feuilleton aura duré plus de 7 ans et il n'a jamais été aussi proche de se clôturer. François Fillon a définitivement été reconnu coupable par la Cour de cassation dans l'affaire des emplois fictifs, une affaire qui lui avait notamment coûté la présidentielle de 2017, Pierre.
Canard enchaîné, Penelope Gate, 20% des votes au premier tour de la présidentielle, c'est le récit rapidement résumé de cet épisode qui a gangréné la campagne de 2017. Un épisode qui, à n'en pas douter, a favorisé l'élection d'Emmanuel Macron. En 2017, François Fillon, c'est le candidat des Républicains, c'est surtout le favori de cette élection. Mais c'était sans compter sur l'investigation du canard enchaîné qui révèle que l'ancien Premier ministre a pendant des années embauché fictivement sa femme en tant qu'attaché parlementaire. Un détournement de fonds public à hauteur de 800 000 euros bruts. Le 24 février 2017, le parquet national financier ouvre une enquête judiciaire pour détournement détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, recel et trafic d'influence. Là, c'est le début de la fin pour François Fillon. Acculé et constamment attaqué, même au sein de son propre parti, il perdra l'élection présidentielle en conséquence.
Et cette jolie histoire vient de se conclure, enfin judiciairement.
Oui, ça y est, puisque François Fillon a épuisé toutes ses cartouches, c'est donc la fin du Penelope Gate. La Cour de cassation a confirmé sa culpabilité, mais nuance, elle ne confirme pas la peine de la Cour d'appel. Elle était de 4 ans de prison, dont un ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. La haute juridiction réclame un nouveau procès pour redéterminer la condamnation.
Et pour Fabrice Légéry, on n'est pas encore à la condamnation, mais une plainte a été déposée, et ce, quand même, pour complicité de crimes contre l'humanité.
Et ce monsieur, c'est tout simplement le numéro 3 de la liste du Rassemblement National aux élections européennes. C'était surtout le directeur exécutif de Frontex de 2015 à 2022. La plainte émane de la Ligue des droits de l'homme et d'Utopia 56. Il lui est reproché d'avoir activement facilité des refoulements illégaux en mer de bateaux de migrants. Dans le cadre de ses fonctions, allégations incorrect, selon les propres mots du principal intéressé.
Et finalement, l'INSEE révèle des chiffres inquiétants sur la capacité des Français à lire et à écrire.
Oui, toi et moi, Louis, on fait partie des 9 Français sur 10 qui n'ont aucune difficulté à lire et à écrire. Tu confirmes ?
Ouais, j'espère.
Cela veut dire que 10% des Français ne liraient pas correctement et ne sauraient pas surtout bien écrire. Cela concerne près de 4 millions de Français. Alors après le rapport PISA accablant sur notre niveau en mathématiques, celui de l'INSEE sur la langue française est peut-être encore pire.
God save the king.
Sono una donna, sono una madre, sono italiana.
I have a dream. Be you, be proud of you.
Un bataillon israélien dans le viseur de Washington. Depuis quelques jours, l'unité Netzah Yehuda est au cœur des critiques. Benjamin, cette partie de l'armée israélienne est composée de juifs ultra-orthodoxes.
L'unité créée il y a 25 ans permet à des juifs, comme tu l'as dit, très pratiquants, d'intégrer l'armée sans avoir à passer par le service militaire pour qu'ils puissent poursuivre leur enseignement religieux. Une particularité qui fait beaucoup parler dans la société israélienne. Une partie d'entre elles considère cet avantage comme injustifié. Les femmes sont par exemple interdite aussi dans cette formation d'environ 500 soldats, et un rabbin est présent dans les rangs pour célébrer les cérémonies religieuses, autre particularité de ce bataillon.
Et les États-Unis pointent donc du doigt les nombreux scandales de ces soldats.
Oui, comme avec Omar Assad en janvier 2022, ce Palestinien avait été forcé de rester allongé plus d'une heure sur le ventre, une nuit d'hiver, menotté, bâillonné et les yeux bandés. Netzah Yehuda laisserait aussi les colons s'en prendre délibérément aux Palestiniens. Alors, les sanctions américaines porteraient donc sur ces exactions commises en Cisjordanie avant même le début de la guerre contre le Hamas. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, devrait les détailler dans les prochains jours. Netzah Yehuda pourrait donc apparaître sur une liste noire créée en 1997, liste qui recense toutes les exactions commises par des unités à travers le monde et qui les empêche de recevoir de l'aide militaire de la part des États-Unis.
Une annonce critiquée par Benjamin Netanyahu. Pour le premier ministre israélien, l'armée israélienne ne doit pas être sanctionnée. Cette décision serait même une atteinte à la morale, selon lui. On part désormais en Amérique du Sud. L'Argentine a été une nouvelle fois cette semaine secouée par des manifestations.
Des centaines de milliers de personnes dans les rues de Buenos Aires mardi, une première depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei. Les manifestants se sont rassemblés pour défendre notamment l'université gratuite et publique contre la politique d'austérité du gouvernement argentin. Le budget des universités n'augmentera pas en 2024 par rapport à l'année dernière, malgré une inflation proche des 300%.
Et retour en Europe maintenant, plus précisément en Espagne, où le Premier ministre Pedro Sanchez pourrait se retirer dans les prochains jours.
Démissionnera ou ne démissionnera pas, la question est toujours en suspens. Le socialiste Pedro Sanchez, au pouvoir depuis 2018, réfléchit à une possible mise en retrait après une plainte de Manos Limpias, organisation proche de l'extrême droite, et l'ouverture d'une enquête pour trafic d'influence et corruption à l'encontre de sa femme. Le Premier ministre devrait annoncer son choix lundi face à la presse.
Le Parlement européen a approuvé ce mercredi une révision de la politique agricole commune, la PAC, Hugo Reynaud. Un moyen d'apaiser la colère des agriculteurs.
L'UE a souhaité calmer la gronde d'un mouvement agricole qui a touché toute l'Europe, décrié par la gauche et les ONG écologistes. Une large majorité des eurodéputés a approuvé cette procédure d'urgence sur la PAC. Les mesures environnementales imposées aux agriculteurs européens ont donc été fortement modifiées. Alors cela peut paraître technique pour les non-initiés, mais les paysans ne devront plus suivre l'obligation de laisser au moins 4% des terres en jachère, c'est-à-dire une terre qui n'est pas exploitée temporairement, pour qu'elle se repose. Autre changement, en cas d'épisode climatique extrême, des dérogations aux règles seront possibles pour éviter des pénalités financières.
Et puis, petite piqûre de rappel, la PAC représente quand même un sacré budget pour l'Europe, mais aussi la France.
La PAC, c'est un budget de 50 milliards d'euros par an, dont 9 pour la France. C'est en grande partie des subventions pour les agriculteurs qui représentent une part importante de leurs revenus. Sans ce dispositif, le secteur tout entier serait en grand péril, alors que la France est le premier pays producteur agricole de l'UE. Pour toucher ces aides, les paysans européens devraient respecter depuis 2003 des critères environnementaux, ce que dénonçaient les syndicats d'agriculteurs. Ils ont donc en partie obtenu gain de cause, mais la crise qu'ils traversent est bien plus profonde.
Et rassurez-vous, le feuilleton est encore loin d'être fini. Un projet de loi sur l'orientation agricole sera débattu à l'Assemblée nationale à partir du 13 mai. Un nouvel épisode dans le rachat du groupe Casino et pas le plus heureux. Entre 1300 et 3300 postes devraient être supprimés chez le géant de la grande distribution.
C'est le chantier explosif qu'a annoncé son nouveau directeur général Philippe Palazzi mercredi. Un mois après la reprise du groupe de distribution par un consortium composé de 2 milliardaires, ce projet de réorganisation vise à vendre la quasi-totalité de ses 314 hyper- et supermarchés à Auchan, Intermarché et Carrefour. Casino employé encore 200 000 personnes dans le monde, dont 50 000 en France fin 2022. Ce n'est plus qu'environ 28 000 personnes avant ce plan social et après la cession de la quasi-totalité de ses magasins à travers le monde.
Un autre acronyme dans cette rubrique, la gestation pour autrui, la GPA, a été classée comme un crime par le Parlement européen, impossible donc d'exercer cette activité en Europe.
Alors même si on a pu lire ça dans différents médias, la réalité est plus nuancée. La GPA en elle-même n'a pas été reconnue comme un eurocrime au niveau de l'UE, au même titre que la prostitution forcée ou l'esclavage. C'est la GPA forcée qui a été inscrite dans la directive européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains. Pour rappel, la gestation pour autrui est le fait pour une femme désignée généralement sous le nom de mère porteuse de porter un enfant pour le compte d'un couple de parents à qui le nouveau-né sera remis après sa naissance.
Moi, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
Moi, tu me parles pas d'âge.
I recoup the ball.
Et pour la première fois, c'est une rubrique sans sport, n'en déplaise à Clément et Sadik 2. Le groupe Le Monde appartient désormais à un fonds de dotation. Xavier Niel vient de céder ses parts au Fonds pour l'indépendance de la presse.
Oui, Xavier Niel ne part pas bien loin, puisque c'est lui qui a créé ce fonds en 2021. Comme son nom le suggère, le but du fonds est de garantir l'indépendance des groupes de presse. Et comment, me diriez-vous, Louis ? Eh bien, en rendant le capital de l'entreprise inaccessible. À terme, 75% du capital du Monde sera détenu par ce fonds. Le reste reviendra au pôle d'indépendance qui réunit journalistes et salariés. D'autres titres ont adopté ce mode de gestion, comme Libération ou Mediapart.
Une assurance d'indépendance pour le quotidien, mais qui comporte des risques.
Eh bien oui, Louis, qui dit capital impénétrable dit nécessité de faire des bénéfices. Et c'est le cas du Monde, plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, presque 10 millions d'euros de résultats d'exploitation. Le groupe revendique 600 000 abonnés, mais il cherche aussi d'autres revenus et se tourne vers l'intelligence artificielle. Un accord signé il y a quelques semaines avec OpenAI. Le deal est simple, le robot conversationnel peut s'entraîner avec le Monde. En échange, il s'appuie sur le quotidien pour ses réponses en redirigeant vers des liens. OpenAI va aussi verser chaque année de l'argent au quotidien qui, on le voit bien, cherche à pérenniser son capital.
Une avancée historique obtenue grâce à Xavier Niel. Le pôle d'indépendance du groupe s'est bien sûr félicité de cette nouvelle. Et puis, c'est une première pour une ville française.
Et oui, Strasbourg, capitale mondiale du livre pendant un an. Une grande première, vous l'avez dit, Louis, pour une ville française. En fait, c'est un label décerné par l'UNESCO. La ville désignée s'engage à promouvoir le livre et la lecture pour tous. L'UNESCO qui, visiblement, a été impressionné par l'accent mis par Strasbourg sur le livre comme moyen de relever les défis de la cohésion sociale. La ville succède à Accra, la capitale du Ghana. Plus de 1000 événements littéraires sont prévus à Strasbourg cette année. Vous n'êtes pas content ? Triplé ! La cérémonie des flammes, les victoires de la musique du rap, s'est déroulée hier. Et ça ressemblait plutôt à un jubilé d'Aya Nakamura. Trois récompenses glanées par l'interprète de Pookie. Gazo a lui été élu artiste masculin de l'année. Mais l'autre événement de la soirée, c'était le retour de La Fouine. Le rappeur des Yvelines a interprété ses plus gros titres. Nul doute que notre journaliste Paul Grelier a su apprécier.
Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
Colline, c'est quoi ton journal préféré ?
Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ?
À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu.
Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous.
Maintenant, à vos carnets et à vos stylos.
Tic-tac, les oraux approchent. On sait que ça peut être un moment redouté, on est tous passés par là. Et pour finir tranquillement cet épisode, Tristan va nous donner 2-3 astuces.
Et oui, ça y est, félicitations, vous avez passé les épreuves écrites avec brio. Vous voilà dans la dernière ligne droite pour intégrer une école. Plus qu'une épreuve à surmonter, les terribles oraux. Et oui, les oraux, ils font très souvent un peu peur. Peur de bégayer, peur de perdre ses moyens, peur de ne pas savoir quoi répondre. C'est vrai que c'est une étape assez stressante parce qu'on doit convaincre un jury qui ne nous connaît pas du tout. Et pourtant, la meilleure chose à faire, c'est de montrer que vous êtes heureux d'être ici, faites-vous confiance. Concrètement, ça veut dire quoi ? Déjà, ayez le sourire. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui fait la gueule, ça envoie une très mauvaise impression à vos examinateurs. Vous ne savez pas quoi répondre à une question, pas grave, assumez-le, passez à la suivante et restez concentré. Dites-vous bien que personne ne fait un sans-faute à un oral. Et dernière chose, n'oubliez pas les basiques, dire bonjour, dire au revoir, remercier. Et oui, parce qu'être poli et savoir mettre les gens à l'aise, c'est aussi une qualité nécessaire à tout bon journaliste.
Bon, dans un oral, il y a l'attitude, mais ça ne fait pas non plus tout.
Et dans chaque école a son propre oral, ce qu'on vous demande peut être un petit peu différent, mais il y a des points qui reviennent quasiment toujours. Le matin de votre oral, regardez les infos qui viennent de sortir, et même si vous passez à 9h du matin, hein, on peut vous poser des questions du style « Cite-moi 3 infos de la journée » ou encore « Quel sujet tu traiterais aujourd'hui si t'étais en rédaction ?» Autre chose, montrez que vous vous intéressez vraiment à l'école et à la ville dans laquelle vous postulez. Donc connaître le nom du maire, sa couleur politique, connaître le nom du quotidien régional local, si la ville est sportive, connaître le nom des entraîneurs. Encore une fois, ce sont des questions qu'on peut vous poser. Enfin, gardez à l'esprit que vous êtes maître de votre oral. Donc si vous êtes spécialiste de l'élevage des saumons en Norvège, orientez le jury pour qu'il vous pose des questions sur le sujet. Voilà, vous êtes prêt pour votre oral. Maintenant, foncez.
Et surtout, bon courage, bien évidemment. Merci beaucoup, Tristan. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. On vous donne bien évidemment rendez-vous samedi prochain. J'allais oublier, mais merci à la régie Arthur et Valentine. À la prochaine, ciao.